Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure de notre interview. Et si je vous dis Pierre Cardin, vous allez me dire que le nom est universel. D'abord parce que le personnage était unique en son genre, mais aussi parce qu'il a créé un empire où la marque est connue dans le monde entier. Pierre Cardin est décédé il y a 2 ans et demi. C'est son neveu qui travaillait déjà avec lui depuis de nombreuses années qui hérite de ce groupe. Pas que de mode, Rodrigo Basilicati Cardin. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes là parce que l'été approche et parce que commence le 22e festival de Lacoste, l'art de la scène dans les carrières du château de Marquis de Sade du 1er au 13 août 2022. On va en parler bien sûr, mais parce que c'est sur Europe 1, dans l'émission d'Isabelle Morizet, que Pierre Cardin, votre oncle, a donné sa dernière interview à l'âge de 96 ans. Je voulais qu'on le réécoute, notamment sur l'ambition qu'il avait, sa volonté, sa ténacité, qui ne tenait que par une seule chose, le travail.
Je ne suis pas orgueilleux. J'ai eu beaucoup d'ambition dès le début de ma carrière. Je pense que si on n'a pas d'ambition, on n'a pas de but. Et moi, j'en avais, c'était de réussir. Pour une raison d'être. La raison de réexister. Et en même temps, par le fait de mon travail qui m'a donné entière satisfaction. J'ai trouvé un équilibre de santé, de bonheur, de joie et de raison à travers mon travail. Il y en a qui appellent ça du boulot, d'autres qui appellent ça du bonheur. Moi, j'appelle ça être heureux. J'ai tout fait ce que j'ai voulu. En construction, en travail, en rencontre, en voyage, en possession. J'ai eu tout ce que j'ai fait. Par le travail. J'anoblis le travail.
J'anoblis le travail. Voilà ce que disait Pierre Cardin avec Isabelle Morizet. L'émission est bien sûr disponible sur notre site europe1.fr. Ça vous émeut d'entendre votre oncle, Rodrigo
Basilicati? Oui, parce que c'est la première fois que je le réécoute après un an et demi avec une voix similaire à quand il nous a quittés. Oui.
On ne va pas entrer dans les détails de la succession parce que c'est trop compliqué, mais c'est vous qui êtes à la tête de cet empire immense qui avait été évalué en 2012 par Cardin à 10 milliards d'euros. 350 licences, 140 pays, des vêtements, des meubles, des cigarettes, de l'alcool, bref, presque tout siglé Cardin. Mmh. Et précisons-le, 100% indépendant. Il n'y a pas un grand groupe de luxe derrière, il n'y a pas un fonds d'investissement. Comment est-ce que vous faites et par où vous commencez?
Non, en réalité, on a commencé déjà avant sa disparition. En 2018, il m'a mis à suivre avec 2018. Lui les choses, oui. Mm-hmm. Et c'est vrai que je suivais quelque chose, quelques groupes, quelques parties du groupe à lui, en Italie notamment, et aussi toute la partie festival, la partie culturelle, je suivais déjà. Et après, il y a les relations avec les licences, donc c'est la grande chose importante dans le groupe, c'est cette relation, et je l'avais comme initiée avant. Et il a décidé qu'à sa mort, il y aurait eu une continuation à la présidence. Et là, il a choisi moi. Mais après, le futur, c'est vrai que 100% autonome, ça c'est vrai.
Et ça va rester comme ça, 100% autonome?
On verra ce que faire la famille en réalité, mais...
Parce que vous êtes plusieurs à décider quand même, il y a une sorte de consortium familial.
Oui, il y a une sorte de consortium et en tout cas tout est encore en construction, c'est pas si rapide hein, de comprendre exactement comment ça se passe.
Mais ça veut dire quand même que le groupe est solide, parce que si vous avez la possibilité financière d'attendre de voir comment est-ce qu'on va faire... Ça veut dire que ça marche d'une certaine manière un peu tout seul.
Oui. D'ailleurs, 70 ans, mon oncle s'est vanté beaucoup de dire que je n'ai jamais utilisé les banques. Donc, pour un prêt. Donc, il a tout fait tout seul. Et chaque fois quand il avait quelque chose de plus, il a réinvesti dans la maison et dans l'immobilier surtout. Et ça fait sa banque personnelle. Et c'est utile maintenant pour satisfaire les héritiers, s'il faut, et comme il faut, voilà, on verra.
Oui, l'immobilier, c'est des châteaux dans toute la France, un restaurant très célèbre, Maxim's.
Oui,
Maxim's. Ça aussi, il va falloir faire quelque chose quand même, peut-être le ressusciter, ce grand restaurant.
Dès que j'ai pu, je l'ai mis en norme, je l'ai revitalisé, on sortait du Covid, donc c'était une tâche importante. Et maintenant, et je dois dire que ça plaît, et la cuisine est bien, donc c'est bien, tout est repris. C'est clair que Maxim, ça veut dire aussi une trentaine de licences, donc il y a aussi à suivre la partie...
Oui, parce qu'il y a toute une série de produits Maxim's
gastronomiques.
Ouais. Mais même de la mode. Parce
oui, c'est vrai, même de la mode. Mais je dis, ça part de la gastronomie, mais ça arrive à la mode, oui.
Cardin, c'est une histoire, et pourtant, et pardonnez-moi, c'est vraiment no offense, sans offense, c'est pas une marque très très à la mode. Où est-ce que vous vendez le plus ?
C'est diffusé capillairement un peu dans le monde, il faut dire. Et l'Europe, ça reste quand même le principal, mais la Chine est fort, très fort. Le pays arabe aussi, le Moyen-Orient. Pas vraiment le pays arabe, le Moyen-Orient, un peu plus loin. Et après, on a
donc bon,
le Brésil. Le Brésil est fort.
Donc, c'est pas un problème que ce soit pas une marque, j'allais dire, qu'on voit forcément dans les magazines.
Voilà, mais c'est son but. C'est lui qui l'a, quand il a commencé avec le prêt-à-porter, et c'était le pionnier dans ce sens, et quand il a voulu déclencher cette idée de donner la griffe à quelques producteurs, à l'époque, et c'était en 50 et quelques, c'était une nouveauté absolue, qui l'a coûté d'ailleurs la sortie de la chambre de la mode, de la haute couture. Lui, il voulait vraiment démocratiser la mode. Donc c'est son but final.
Ouais.
Et moi, je n'ai jamais voulu, dès le début, la repositionner sur le luxe-luxe. Lui, c'est la création. Et il veut être reconnaissable. On continuera à être reconnaissable. Dans la rue, en voyant une personne, ah voilà, ça c'est du Cardin. Il faut que ce soit comme ça.
Vous en portez d'ailleurs aujourd'hui, alors les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez une veste sans col. Avec,
et voilà, et vous me l'avez tout de suite remarqué.
Parce que c'est reconnaissable entre mille.
Oui, parce qu'en plus la coupe des épaules c'est spécial, c'est lui qui l'a inventé, et c'est carré comme ça, ça n'existait pas, ça n'existait plus. Et sans col, c'est vrai, c'est lui qui l'a commencé. D'ailleurs, l'idée est partie de Beatles, quand il a fait ses quatre vêtements.
C'est vrai, il faut le rappeler.
Sans col, oui.
C'est bien Cardin qui a habillé les Beatles, c'est pas forcément une marque anglaise. On parlait tout à l'heure de la banque Cardin qui se situait dans l'immobilier, dans cet immeuble qui est totalement mythique. C'est pour ça que je disais que vous n'aviez pas des vues sur l'Élysée, mais vous aviez la vue sur l'Élysée puisque vous êtes en face au 27 avenue de Marigny, l'immeuble qui fait l'angle de l'autre côté de l'Élysée. Il y a bien sûr des châteaux. Il y a donc cette façon de garder l'argent dans l'entreprise sans avoir appel à banque, alors qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les licornes, les start-up font ce qu'on appelle des levées de fonds à tout va. Et puis, Pierre Cardin tenait des calepins en cuir dans lesquels il notait tout. Il était capable de vous ressortir la recette de telle branche de l'entreprise en telle année. Cette minutie, cette façon de manager qui n'est plus du tout à l'heure du jour, est-ce que vous en avez d'une certaine manière hérité ?
Alors là, elle me l'a beaucoup expliqué. J'ai vu d'ailleurs que ces cahiers, c'est magnifique, il y en a des centaines et des centaines en toutes les couleurs. Ça lui permettait de faire des confrontations, de mettre les choses à côté et de voir des années, et même de maîtriser, l'idée de maîtriser. En réalité, tout était dans sa tête. En réalité, c'était le savoir qu'il était écrit, ça lui
donc
plaisait
l'ordinateur,
beaucoup.
C'était lui.
Mais l'ordinateur, c'était sa tête.
Et vous ?
Et alors moi, en 25 ans que je le connais, je commençais un peu à comprendre de plus en plus comment... J'aime beaucoup mémoriser. Je suis ingénieur de formation, donc j'aime beaucoup les chiffres, les choses. Donc je les mets ensemble et je cherche de mémoriser. L'effet de suivre toutes les choses maintenant, et au fur et à mesure, il y aura quelqu'un qui m'aidera dans l'entreprise. Mais pour le moment, c'est en phase de construction. L'effet de signer tous les devis et toutes les factures, ça me permet d'avoir une vision, d'avoir une sensation de masse salariale, de tout. Et surtout, des projets qu'on porte. Et après, il y a un contrôle de gestion, bien sûr, c'est arrivé. Finalement, mon oncle n'aimait pas, parce qu'il ne voulait pas qu'il soit contrôlé, ce qu'il faisait. Mmh. Il le sentait par cœur. Là, maintenant, il faut répondre à un certain nombre de personnes. Il vaut mieux qu'il soit ciblé et soit clarifié.
Même, même s'il aurait détesté ce mot, c'est en train de se normaliser. Quoi.
Oui, normaliser de quelque manière. On reste quand même une petite entreprise. En réalité, Pierre Cardin, c'est
Elle est valorisée à combien, cette entreprise
lui,
parce que
quand
les chiffres circulent et voilà, on entend tout et n'importe quoi.
Vous venez de dire qu'il lui évaluait 10 milliards.
En
2012. Mais c'est parce que lui considérait tout le monde Cardin. Pour lui, c'est une grande famille. Et toutes les licenciés, 200 licences on a dans le monde, tous les licenciés et produits, on a 700 ou 800 des produits différents par licence. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait, tous ces masses qui travaillent pour moi, c'est pas directement suivi par moi, mais ça fait, on peut dire 10 milliards, c'est vrai. C'est pas loin. Mais nous, on travaille sur un pourcentage, parce que nous, c'est ça le secret de son monde.
Et donc
monde.
La maison
l'unicité,
Cardin,
l'unicité.
Elle-même,
oh, il faut la considérer même pas un dixième. Mais
un dixième, ça fait un milliard quand même.
Oui, ça fait.
Pardon.
Mais même pas, j'ai dit. Je dis que maintenant, il faut reprendre un peu de vous savez, la chose importante que lui faisait, c'est qu'il voyageait le monde. Et il suivait tous ses licenciés, une par une. Et chaque année, pratiquement, il les visitait tous. Et ça veut dire un voyage toutes les semaines, presque. L'effet de faire ça, ça tient le rapport avec eux et l'enthousiasme. L'effet que les derniers 20 ans, 25 ans, il a un peu beaucoup diminué tout ça. Mmh. Il s'est concerné à ces petits voyages. Quand même, il allait toutes les semaines à la côte à restaurer des maisons, des châteaux, des choses. Donc, il adorait. Mais il faisait seulement ce qu'il arrivait à faire physiquement tout seul. Sinon, il laissait tomber. Alors les licences, peut-être, ils sont un peu éloignés de la maison mère, un tout petit peu. Et ça a déterminé un petit shoot qu'il faut reprendre et récupérer.
Alors, puisque vous parlez d'art, évidemment, vous, enfant, vous rêviez d'un autre art, celui de la musique. Vous rêviez d'être ABM et puis finalement, vous êtes RBC. Alors, je vais expliquer aux auditeurs, puisque vous aviez une passion sans limite pour un pianiste italien mondialement connu, notamment pour ses enregistrements de Debussy, qui s'appelle Arturo Benedetti Michelangeli. En attendant, c'est donc l'art à Lacoste pour ce festival de musique et de théâtre cet été au mois d'août. Quelle est la programmation? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette 22e édition?
Mais on a des noms importants cette année. La chose curieuse, c'est que finalement, après 22 ans de ce festival, il y a une curiosité. Il y a les grands stars qui nous cherchent même, qui nous disent « Qu'est-ce que vous faites cet été? Est-ce que je peux essayer ma pièce, une nouvelle pièce ?» Et là, c'est notre intérêt, de faire des créations, possiblement. C'est difficile maintenant, il faut faire un peu attention, justement, dans ces périodes d'assestement,
de stabilisation.
Et la création pure, c'est quelque chose de coûteux, très coûteux. Une production de musical, ça coûte.
C'est ce que faisait Cardin dans son espace Avenue Gabriel.
Oui. Ouais. L'année dernière, on a fait, sur une idée qu'on a discuté, on a fait la danse des galaxies. Là, c'est une création complète avec des danseurs, des chanteurs et un physicien sur scène, des hologrammes, des choses. Mais ça, aujourd'hui, j'ai préféré recevoir des propositions.
Alors, qu'est-ce qui nous attend à partir du 1er août?
Mais on a Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, de grands noms
du théâtre et du cinéma français.
Et en plus, Isabelle Adjani prépare quelque chose sur Marilyn. Le thème, c'est ça, mais Marilyn Monroe, mais en réalité, c'est un échange entre elle et ses pensées et les pensées de Marilyn à la fin de sa vie.
Qu'elle avait déjà commencé à faire à Paris.
Oui, il a commencé là récemment, et il a pu extraire de la dernière interview de Marilyn, des textes, et tout ça ensemble, ça fait quelque chose de très mouvant, et seul sur scène, ça c'est très intéressant. Donc il y a pas mal de seul sur scène cette année. Gérard chante Barbara, Gérard Depardieu, avec Gérard Daguerre, grand pianiste, et il était déjà sur notre scène il y a 2 ans. Et en plein Covid, donc avec un jeu divisé par deux, et un mois et demi avant le concert, il n'y avait plus de place. Donc, on a dit, bon, on le refait. Si le public demandait, on le fait. Et c'est lui qui s'est proposé aussi. Il a dit, très bien, je viens. Il a très bien vécu. En plus, l'autre fois, c'était avec Pierre. Et donc, il a adoré. Après, on a Thierry Lhermitte avec son spectacle assez sérieux. Sur l'après-guerre, après André Dussolier, Cali, autour du Women's Show. Après, Broadway Rhythm, c'est quelque chose sur le jazz, avec de tip-tap, des champions, et Saint-Exupéry, Gros Magari.
En tout cas, une belle programmation au château de Lacoste, le château du Marquis de Sade, quand même, hein, faut-il le rappeler, dans cette belle région du sud de la France. Merci beaucoup, Rodrigo Basilicati Cardin, d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce moment et de nous expliquer comment vous faites avec ce grand bateau, j'allais dire bateau ivre, mais il n'est pas si ivre que ça, puisqu'il fonctionne tout seul, mais quand même assez difficile à manœuvrer. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Ça fait débat, votre rendez-vous du samedi soir, 18h35. Vous êtes sur Europe 1.